France Musique.
Ils se sont lancés dans un tour du monde en 16 quatuors, les 16 quatuors de Beethoven, un projet un peu fou que France Musique est fière de soutenir. Nous recevons ce matin la moitié du quatuor Eben, l'un des plus grands quatuors français, européens et même du monde. Bonjour Gabriel Le Magadur.
Bonjour.
Second violon depuis 20 ans, depuis les débuts. Et puis bonjour à Raphaël Merlin, le violoniste, violoncelliste dès l'origine, qui est en train d'entrer dans le studio. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Citons également Pierre Colombet, premier violon, et Marie Chelem à l'alto. C'est la nouvelle venue depuis 2 ans tout juste, après Mathieu Herzog, après Adrien Boisseau. L'équilibre d'ailleurs entre vous quatre, avec l'arrivée d'un nouveau membre, comment il s'est fait rapidement ?
Oh bah c'est une alchimie complexe le quatuor, il faut du temps pour faire maturer le son, l'homogénéité, c'est aussi une école de vie, donc il s'agit pas seulement de son mais aussi de vivre ensemble. Et avec Marie il y a 2 ans, bah ça s'est fait extrêmement naturellement, et c'est aussi quelqu'un qui avait l'habitude de faire énormément de musique de chambre dans sa vie, que ce soit en freelance ou au sein même de son ancien quatuor, puisqu'elle en a fait beaucoup avec son frère, le quatuor Cavatine. Mmh. Donc quand elle est arrivée, en fait, elle était presque en terrain connu, parce que il y avait en terrain connu, puisque c'était ce qu'elle faisait quasiment toute sa vie, donc une adaptation vraiment très facile.
On teste les gens parfois, comment ça se passe? Il y a des gens qui viennent, qui remplacent, quelqu'un qui est blessé.
Oui, on peut toujours, mais en fait, rien ne remplace le long terme. C'est à la fois pour les membres qui sont là historiquement et à la fois pour la personne qui arrive, il faut vraiment mettre à l'épreuve la vie quotidienne. Donc ça peut pas se décider sur une audition de 2 heures ou même une tournée de 3 semaines ne suffit pas.
Manifestement, ça s'est bien passé puisque vous vous êtes lancé dans un projet un peu dingo, Beethoven autour du monde, Beethoven Around the World. C'est donc l'intégrale de ces 16 quatuors, l'un des sommets de l'histoire de la musique que vous êtes en train de graver et de gravir ce sommet. Le coffret sortira en mars. Il y a ce premier disque apéritif un peu avec ces 2 quatuors de l'opus 59, les Razumovsky, qui viennent paraître chez Erato. Voici le final presto de l'opus 59 numéro 2. Comment on pourrait décrire ce mouvement, cette musique? Qu'est-ce qui s'y passe?
Une chevauchée dont l'énergie éclatante et même ébouriffante, éclaboussante, ne cesse de se renouveler.
Je dirais et qui ça. Se termine dans un précipice radical.
Totalement. Thank you.
Précipice, final presto, le final de ce 8e Quatuor Opus 59, numéro 2 de Beethoven. Le Quatuor Ébène, nos invités ce matin, Raphaël Merlin, le violoncelliste, et Gabriel Lemagadur, l'un des deux violonistes. C'était enregistré où, ça?
Ça s'est passé à Vienne en juin, mi-juin.
Premier enregistrement de cette intégrale, ouais. Entièrement en public, en live, sur 6 continents. Qui est en cours. Vous étiez au Brésil le mois dernier, vous allez partir dans quelques jours en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Ce projet, il est né comment, d'où, de quel esprit?
Il est né en 2014.
Raphaël Merlin.
En 2014, on a reçu l'invitation pour 2020, donc on peut dire qu'ils s'y sont pris bien à l'avance, du Carnegie Hall de New York pour jouer le cycle complet. Et nous, on avait à l'époque même pas un tiers des quatuors de Beethoven dans notre répertoire. On en avait 4 ou 5. Et on s'est dit, c'est une invitation de consécration. Ça, on peut pas vraiment refuser. Mais en acceptant, il fallait pas transiger sur la qualité. Et donc, on a aménagé le calendrier de manière très drastique, de sorte qu'on ait vraiment 3 ans pleins de Beethoven pour arriver à cette intégrale. Et on ne met pas autant de deux dans le même panier sans laisser une trace. Donc, on a décidé d'enregistrer. Et par cohérence avec l'état d'esprit initial. De ce compositeur qui est probablement le premier grand universaliste, toute la pensée philosophique de son époque, il était complètement dans un truc idéal pour les générations futures, tous les humains deviendront frères, et on s'est dit on va pas jouer ça pour la bourgeoisie autrichienne ni pour la... non, il faut qu'on aille voir le monde dans son ensemble et dans ses différences. Et puis l'idée du live aussi nous plaisait bien parce que l'énergie du concert, qu'on le veuille ou non, malgré les scories, les petits accidents, les fragilités qui peuvent être entendues dans l'enregistrement final, c'est ça, comme on dit souvent en répète, ça pue la musique, et c'est ça qui nous plaît.
6 enregistrements, 6 endroits, 6 continents, comment vous avez choisi ces lieux-là? Vous étiez au Brésil, là, le mois dernier, ça s'est passé comment d'ailleurs, Gabriel?
Ah, le Brésil, c'est un endroit extraordinaire, São Paulo, avec une richesse de culture et de... c'était magnifique. On a vécu aussi au-delà du projet de disque et du live qu'on réalise, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent et qui font partie de ce projet.
Des rencontres,
exactement, avec notamment au Brésil, on a rencontré des jeunes des favelas dans une école avec qui on a, à qui on a proposé de monter un petit mouvement de Beethoven avec nous pour qu'on le joue en orchestre. Et c'est des petits jeunes qui, s'ils n'ont pas de musique, ils sont abandonnés dans la rue. Et en fait, là, il y a un bus qui passe les prendre tous les matins pour qu'ils soient pas livrés à eux-mêmes et qu'ils finissent pas, ben, dealer ou je ne sais quoi.
C'est l'Institut Baccarelli, il faut le citer.
Instituto Baccarelli.
C'est vraiment un endroit extraordinaire.
Ouais. Et du coup, voilà, on a passé une demi-journée avec eux et c'est, pour moi, j'ai l'impression que même ce projet, il vaut la peine d'être vécu. Aussi, presque principalement pour ce genre de choses, parce que visiter du pays, c'est bien beau, mais c'est ce qu'on fait toute notre vie. Et là, on rencontre, quelque part, Beethoven aussi, il a composé cette musique en disant je compose pas pour vous, je compose pour les siècles à venir. Et nous voici maintenant vecteurs de sa musique, humble vecteur, et si on peut partager ça avec des petits-enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de toucher à ce répertoire, c'est phénoménal.
Comment les lieux ont-ils été choisis à 6 endroits, 6 continents? Comment ça s'est fait?
C'est un long processus. Il y a les pays comme les États-Unis ou le Japon dans lesquels on a déjà beaucoup de contacts et sur lesquels on a pu anticiper beaucoup. Et puis il y a le grand inconnu, ça a été l'Afrique. Et finalement, le hasard a très bien fait les choses et on a exploré plusieurs pistes dont certaines ont dû être abandonnées pour des raisons parfois politiques, pour des raisons parfois...
Vous allez jouer au Kenya, donc pas en Afrique francophone. Je me suis dit, pourquoi pas dans un pays
d'Afrique
francophone ?
Oui, on avait une superbe opportunité de jouer au Mali dans un centre agroécologique et culturel qui avait été créé par un couple franco-malien. Et c'était un endroit idéal parce qu'il y a tout un volet de... Alors ça peut paraître absurde parce que évidemment vous imaginez les tonnes de kérosène qu'on va cramer pour ce tour du monde, mais on a justement à cœur de faire passer le message de la conscientisation, et on a un partenariat Air France de compensation carbone qui était possiblement faisable sur place dans cette même ferme agroécologique au Mali dans laquelle on voulait jouer. Et finalement, à cause des événements, il a fallu renoncer à ça, mais on va au Kenya dans en partenariat avec une organisation qui s'appelle Ghetto Classics et qui fait à peu près le même genre dans le même état d'esprit que ce qu'on a vécu au Brésil, qui fait faire de l'orchestre à des enfants des bidonvilles. On nous a prévenus, on nous a dit attention, ça peut être un peu choquant ce que vous allez voir en termes de pauvreté, mais on est très heureux parce qu'on a réussi avec l'Alliance française là-bas à coordonner l'enregistrement, le concert, et puis c'est ce genre de rencontre. Effectivement, on va pas le faire deux fois, je pense, ce truc.
Ce sera à Nairobi au Kenya dans quelques semaines maintenant. Vous avez déjà joué en Afrique ?
Absolument pas, jamais.
Voici un autre extrait de ce premier disque avec les quatuors Razoumovski. Thank you. Là, c'est le premier de cet opus 59 de ces quatuors Razumovski, l'Adagio, Molto et Mesto. Le début hein, seulement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps jusqu'à 9h pour écouter quelques extraits de ce premier disque. Premier, puis ensuite il y aura l'intégrale qui sortira au printemps, en mars, me semble-t-il, du Quatuor Eben avec ses 16 quatuors à cordes enregistrés sur 6 continents. Raphaël Merlin, violoncelliste, Gabriel Le Magadur, violoniste, qui sont avec nous ce matin sur France Musique. Je voudrais qu'on redise un mot de la dimension écologique de ce projet. Vous portez le nom d'un arbre, d'une essence d'arbre, les ébènes. C'était quoi? C'était une culpabilité. Il y a quelques années, on parlait pas encore beaucoup de l'empreinte écologique. Mais là, vous passez votre vie dans les avions depuis quelques mois et ces prochains mois. C'est quoi? C'est une culpabilité?
Bah, vous savez, c'est le paradoxe de Nicolas Hulot. Hein. S'il avait pas lui-même fait le tour du monde 45 fois pour Ushuaïa à l'époque, il aurait pas eu conscience aujourd'hui à quel point le monde se transforme vite sous l'effet de l'activité humaine. C'est très facile en restant chez soi de se cramponner à des certitudes ou à des choses qui rassurent. Et effectivement, quand on voyage, c'est un privilège de voyager. On est vraiment conscient de ça. Et en plus, pour porter de la musique, quelle chance, c'est le plus beau métier du monde. Mais on voit bien, quand on va dans des grandes villes, on était à Shanghai récemment, on est allé à Bombay plusieurs fois, on voit bien que le désastre environnemental qu'on lit dans les journaux, mais qu'on lit sans vouloir l'entendre, parce que c'est trop dur comme réalité à vraiment intégrer, bah que ça se voit, c'est réel, et qu'on a aussi cette part de responsabilité de simplement faire partager les mots, les regards, les choses qui vont aider cette lente mais indispensable transition écologique dont on parle dans les classes politiques de tous bords maintenant.
Côtoyer Beethoven au quotidien, comme ça, et plus que lui, vous ne jouez plus rien d'autre en ce moment?
Ah non, il y a plus que Beethoven, et ce depuis déjà quelques années. On rentre en monastère avec notre cher Ludwig.
Est-ce que ça vous fait changer votre façon d'appréhender sa musique? Vous découvrez encore des choses de le côtoyer au quotidien?
Oui, absolument. C'est
quoi?
Pour moi, enfin, je trouve que c'est vital d'avoir... comme on dit, la vue d'ensemble d'un compositeur qui a été le plus loin possible dans ce genre-là et qui est certainement le maître en la matière. Et c'est vrai que de jouer ce qui va nous arriver régulièrement quand on va jouer l'intégrale en 10 jours, dans quelques mois, au Carnegie Hall.
Enfin, puis il y a la Philharmonie de Paris l'automne prochain, dans
absolument.
Un an.
Absolument. Eh bien, de jouer l'opus 18 numéro 1 ou 3, puisqu'il a commencé par composer le troisième, et puis dans le même concert de jouer l'opus 135, ça donne une espèce de lien totalement extraordinaire quand on voit le chemin accompli par un compositeur qui en plus a été enfermé par sa surdité et qui a donc brisé toutes les frontières structurelles et même émotionnelles de cette musique, c'est assez fort.
Ces derniers quatuors, d'ailleurs, que vous jouez donc en concert régulièrement, ils impressionnent encore quand on les voit jouer en public, quand on est dans le public. 200 ans après leur écriture, leur modernité, leur côté révolutionnaire peut encore décontenancer beaucoup de spectateurs.
Ah, bien sûr. Hein. Tu te rappelles le clochard à Munich sur le trottoir, on avait croisé un type qui nous avait vu avec nos instruments sur le dos, qui disait vous jouez, vous, les derniers quatuors de Beethoven?
Ah oui.
On n'y comprend rien, non? Et c'était vraiment le type de la rue, quoi.
Bah, c'est vrai que quand on écoute comme ça et qu'on tombe à la radio sur un bout de la Grande Fugue, ouais. Je pense qu'on peut se dire que c'est une sacrée cacophonie, sauf que c'est une des pièces les plus magistrales du répertoire.
Et vous en avez peur encore de cette musique ou faut la maîtriser, il faut la...
Ce qui est étrange avec Beethoven, et je pense que c'est le seul compositeur qui produit ça sur le musicien, c'est qu'il a tellement dépassé les frontières techniques de l'instrumentiste, qu'on en a moins peur. C'est-à-dire qu'il nous enlève de la pression, c'est tellement difficile et c'est tellement au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer violonistiquement, instrumentalement, que bien on se dépasse pour lui et je dirais que ça rend peut-être un peu plus humble le musicien d'avoir un compositeur qui a été aussi comment je peux dire
oui, visionnaire.
Visionnaire, ouais. Exactement.
Mais c'est quand même un type qui dérange, moi, je trouve. C'est quand même... à travers sa musique, moi, il continue de me déranger. Il me laisse pas tranquille dans ma zone de confort, justement. C'est vrai que, quelque part, c'est tellement difficile qu'on peut se pardonner soi-même de pas le faire exactement tel qu'on l'entendrait en rêve. Mais en même temps, le discours beethovenien, c'est quelque chose, je trouve, de de provocant par nature. C'est assez difficile à dire autrement.
C'est peut-être pour ça que c'est un compositeur encore plus actuel que tous les autres. C'est qu'on est quand même aussi dans une vie provocante.
Un autre extrait du premier quatuor de l'opus 59, les Razumovsky, Beethoven, Vassel, Allegretto, Vivace. Sur ce disque Erato, le quatuor ébène en plein enregistrement de l'intégrale des quatuors de Beethoven sur 6 continents. Une aventure dont on parle ce matin avec Gabriel Le Magadur, le second violon, Raphaël Merlin, le violoncelliste. Alors, depuis 8h30 qu'on en parle, on évoque ces enregistrements. Vous, est-ce que vous connaissez vous deux là, vous êtes face à face depuis 20 ans, est-ce que ça vous a changé dans vos rapports ou pas, le fait d'aller au Brésil, bientôt en Afrique, de sortir des zones de confort dont vous parliez, Raphaël, aussi?
Oui, oui. Mais je crois que la relation de quatuor, elle est en permanence mouvante. Donc... si on avait consacré 4 ans de notre vie à Stockhausen, ça nous aurait transformé aussi.
Peut-être d'une autre manière.
Ouais, peut-être autrement. Ouais. Mais c'est vrai que ça, Beethoven nous a quand même mis en face de certaines questions existentielles. Le rapport au temps, par exemple. Parce que notre société qui va très vite, qui veut toujours aller de plus en plus vite, quand vous êtes en face justement d'un adagio molto e mesto, comme tout à l'heure, ou du mouvement lent de l'opus 132, qui est le chant de reconnaissance dans un mode à une divinité, toutes ces choses-là qui sont pas sacrées, c'est vraiment de la musique profane par excellence, mais ça touche à ce qu'il y a de plus noble en nous, ou en tout cas c'est vraiment humaniste dans le sens où on doit se retrouver d'une manière ou d'une autre, et je pense que ça nous a rapprochés, ouais. Parce que au fond, on partage le même silence, la même éternité, on partage les mêmes... intemporalité, il faut être tranquille, quand vous devez jouer le plus lent possible mais être bien ensemble, il faut coordonner la respiration, le regard, c'est très très intime comme relation. Donc je pense que oui, cette musique-là, plus elle est exigeante, plus elle nous rapproche.
L'année prochaine, vous allez fêter vos 20 ans, vous êtes là depuis 20 ans, vous ne les faites pas dans ce quatuor,
c'est gentil.
Gabriel et Raphaël, vous les jouez depuis le début, tous ces quatuors?
Non, on les a montés peu à peu. Je crois qu'on a dû commencer par l'opus 18.1 quand on... Je sais même pas si Raphaël était déjà...
Non, premier Razumovsky, je crois.
Ah, premier Razumovsky, avec toi?
Non, avec Mathieu Fontana, mon prédécesseur.
Ah non, bah alors c'est le 18.1 par lequel
on a commencé,
ça c'est officiel. Ça, tu savais pas.
Donc vous avez commencé en fa majeur, ça c'est
voilà,
ça.
On a commencé en fa majeur et puis bah on a terminé, je dirais, l'élaboration de ces quatuors il y a seulement quelques mois. Marie même en avait certains qu'elle avait pas joué du tout.
C'est parti pour la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie dans quelques semaines. Ensuite, l'Afrique, on en a parlé. Le Kenya, les États-Unis, c'est fait, ce sera...
Les États-Unis, c'était le premier réellement sur lequel le continent sur lequel on est allé. C'était Philadelphie, en avril dernier.
Et puis vous reviendrez à Carnegie Hall, les 1er et 2 mai à New York, si on nous écoute sur francemusique.fr. On se quitte non pas avec Beethoven, mais dans le Grand Ouest, dans le désert du Nevada. Like têtes cafées, ah ouais. Calling You, vous vous souvenez?
Oui.
C'était il y a quelques années.
Ah là là, ouais, l'enchaînement était magnifique, là, de Philadelphie au désert du Nevada.
Mais faut-il rappeler que Bagdad, c'est pas que aux États-Unis.
Non, effectivement. Mais le café aussi.
Le café, ouais.
Merci à vous deux, Raphaël Merlin, Gabriel Le Magadur, d'être venus ce matin sur France Musique. On reparlera des prochains événements et de l'intégrale en mars pour la sortie, avec une journée le 17 mars sur France Musique consacrée au Quatuor Ébène. Qu'est-ce qui va se passer après d'ailleurs? Parce que après un truc comme ça, on veut souffler.
Ben alors il y a un an où on va jouer. Pour aller jour et nuit un peu partout dans le monde, et puis à partir de janvier 21. On va se reposer.
Ça veut dire
8-9 mois.
Mettre entre parenthèses le quatuor quelques temps.
Absolument. Mmh. Et se détacher de Ludwig, mais sans jamais l'oublier réellement.
Bob Telson, le compositeur de Bagdad Café. Lundi, notre invité sera Julien Chauvin, violoniste et chef d'orchestre du concert de la Loge. C'était Thibaut Nassim Ben et je ne sais plus qui était à la cabine. Marion Guillemet, Salomé Coq et Margot Muller ont préparé cette émission. C'était Antoine Giraud à la cabine. Et puis Yacine Bouzard l'a réalisé. Non, c'est pas vous, là, c'est le Quatuor à Rhodes, c'est des petits jeunes. C'est Haydn, le lever du soleil. C'était la réponse de notre jeu il y a une heure. Et on recevra des membres du Quatuor à Rhodes la semaine prochaine pour leur second album. Émilie Minera, Rodolphe, Bruno Boudmier sont de l'autre côté du couloir. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste. On va ouvrir cette émission avec un violoniste, puisque vous étiez dans les cordes ce matin. On reste dans les cordes, c'est Daniel Lozakovic.
Ah,
vous
oui.
savez, c'est le petit prodige.
Il est tout jeune.
Bah, c'est-à-dire, à force d'avoir 16 ans, maintenant je crois qu'il en a 18. Mais il est toujours jeune, vous me direz, à 18 ans.
Petit
il a la
violoniste deviendra grand.
Exactement.
À lundi.
À lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.